Bon, les stations de ski, quand j'entends certains dire, ben oui, mais telle autorité privilégie les questions économiques sur les questions sanitaires. Ça, pas question. Le premier critère, vous voyez, c'est la santé.
Depuis la mise en place des mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de Covid, les professionnels de la montagne manifestent leur colère, évoquant des dizaines de milliers d'emplois menacés. Pourtant, ça fait maintenant plusieurs années qu'ils savent que, pandémie ou pas, leur existence même est remise en cause par un péril qu'aucun vaccin ne pourra écarter, le réchauffement climatique.
Ça arrive de plus en plus fréquemment qu'on ait des petites périodes de pluie à 2000 mètres. Et le ressenti me fait dire que c'est plus fréquent ces dernières années qu'avant.
En hiver ?
En hiver, oui, je parle bien de la période hivernale pendant la saison de ski.
Des hivers moins froids, des ressources en eau qui s'épuisent en raison même de l'implantation de stations de plus en plus gourmandes en neige de culture. Et c'est tout le modèle d'une activité économique née dans l'opulence des Trente Glorieuses qui est remise en question. Depuis déjà quelques années, certaines stations de basse et moyenne altitude en sont arrivées à lutter simplement pour leur survie.
Il y a quelques semaines, le syndicat intercommunal de Saint-Pierre-de-Chartreuse décide la fermeture progressive du domaine de Saint-Hugues-les-Égaux, en cause la rentabilité. Mais les habitants de la minuscule station ne l'entendent pas de cette oreille. Regroupés en association, ils reprennent la gestion en direct du domaine skiable. À force de détermination et grâce aux bénévolat, la station est sauvée.
C'est précisément dans cette petite station des Égaux, dans le massif de la Chartreuse, près de Grenoble, que commence ce reportage de Jérôme Val et François Rivalon.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Mais ça va, écoutez, il fait un peu frais. Il fait un peu frais, mais c'est normal, on est en hiver quand même.
Vous allez nous présenter votre station ?
Ah mais écoutez, c'est avec plaisir. Je suis là pour ça et puis je suis fier parce que je... C'est un peu mon bébé, quoi. Hein ? On peut dire ça comme ça. Je m'appelle Guibec Le Verlange, je suis natif de la Chartreuse. Je suis né la maison qui est derrière vous, là. Voilà, je suis bien ancré depuis 70 ans.
Vous avez toujours fait du ski ici ?
Je travaille dans le ski depuis les années 65, 70. Et j'ai fait beaucoup de damages. J'ai été chef d'exploitation de la piste station des Égaux. Puis maintenant, je m'occupe aussi beaucoup de ski de fond.
Alors aujourd'hui, on a de la chance. Il y a de la neige, tout est blanc. Est-ce que ces dernières années, ça a toujours été le cas, cette période de l'année ?
Bien sûr que non. L'an passé, par exemple, à l'heure qu'il est, il faisait pratiquement 10 degrés. Il n'y avait pas de neige, c'était sec. Il y avait encore des vaches dans la prairie. D'une année sur l'autre, il y a une grosse différence. Voilà, ce qui fait que c'est très difficile de gérer une station de moyenne altitude actuellement, parce que il y a encore de la neige. Mais c'est tout en dents de scie, donc il faut être très réactif.
Vous nous l'avez dit, vous êtes natif d'ici, vous avez skié ici. Quand vous étiez enfant ou plus jeune, on pouvait skier de quoi ? De décembre à avril sans problème ?
Ah oui, c'était l'amplitude hivernale, c'était 4 mois facile, 4 mois et demi, avec des chutes de neige beaucoup plus importantes sur le cumulé. C'est-à-dire que dans les années 60, le cumulé chez nous à 900 mètres, il était de 5 mètres de chute de neige. Maintenant, la moyenne, c'est 1 mètre. Ça se stabilise depuis 10 ans. Mais voilà, la neige, elle tombe quand elle en vit. La première année sans neige complète qui a fait du mal à toutes les stations, c'est en 89. Il y a eu 4 années de suite où moi, je suis allé travailler à Val d'Isère. Parce qu'il n'y avait pas de neige chez nous. C'était le premier coup de semonce, disons. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être commencer à réagir.
À la fin des années 80 déjà.
Oui. Et puis, vous savez, quand cette station a vu le jour en 64, c'est Émile Allais qui est venu pour conseiller un petit peu la station de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et à cette époque déjà, il disait, faites les stations versant nord, parce que versant sud, même en haute altitude, la neige, c'est plus difficile. En 64. Parce qu'il était tout le temps dans les stations pour les compétitions et tout ça. Et il voyait très bien que certaines courses étaient annulées. Voilà, donc il en tirait ses conclusions. Donc si on existe ici aux Égaux, c'est un peu grâce à la clairvoyance de Émile Allais, champion olympique. Voilà.
Émile Allais a notamment étudié la topographie du terrain
afin de pouvoir lancer de nouveaux tracés de pistes et installer de nouvelles remontées mécaniques.
Dans cette station emblématique du massif de la Chartreuse, le réchauffement climatique n'est pas une donnée abstraite. Une étude de Météo France montre qu'en 50 ans, la température moyenne sur ce site a progressé de 1,3 degré, ce qui a un impact fort sur l'enneigement naturel.
Bon, maintenant, il faut remonter.
Saint-Pierre de Chartreuse, comme beaucoup d'autres communes, est contrainte de s'adapter. Nous allons à la rencontre de son maire, Stéphane Gusneroli.
Oui, bonjour, je suis effectivement le maire de Saint-Pierre-Chartreuse depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Alors déjà, peut-être pour situer Saint-Pierre-Chartreuse, on est effectivement un village. On est situé à 1000 mètres d'altitude. Donc, et la station de ski, elle va jusqu'à 1700 mètres d'altitude. Et les plus hauts sommets de Chartreuse sont à 2000 mètres, ils sont sur la commune. Donc effectivement, on est une station, un village de moyenne montagne. Donc effectivement, directement touché par les effets du réchauffement climatique, puisque c'est une altitude où l'enneigement il devient très aléatoire et puis il se réduit comme les études le montrent. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on connaît la difficulté qui c'est ce contexte-là. Et donc on est déjà dans une dynamique d'évolution de nos projets touristiques, notre pratique touristique pour prendre ce virage du tourisme qu'on appelle 4 saisons maintenant et diversifié. On mise effectivement tout plus uniquement sur le ski et la neige, mais on va chercher à développer d'autres activités sur les 4 saisons et sur d'autres pratiques. La raquette, le ski de randonnée, la balade tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui viennent simplement se promener l'hiver, neige ou pas neige en fait, voilà. Faire des activités aussi culturelles. On a un musée très renommé ici à Saint-Hugues, le musée Arcabas. On a le monastère de la Grande Chartreuse. Et donc les gens qui viennent nous visiter l'hiver ou les autres saisons, ils font tout ça. Voilà. Donc c'est à nous de maintenant de savoir s'adapter et proposer une offre qui répond à ces attentes, qui garde une place pour le ski, parce que ça reste le moteur de l'activité, mais qui sait aussi proposer autre chose.
Mais votre commune, est-ce qu'elle est dépendante du ski d'un point de vue financier? Parce que c'est une activité forcément qui génère des revenus. Est-ce que vous êtes dépendant du ski aujourd'hui et comment sortir de cette dépendance?
Alors, on est dépendant du tourisme, clairement, parce que c'est la première activité générateur d'emploi sur le village. Et donc oui, effectivement, l'hiver, beaucoup d'emplois des habitants du village sont liés à la neige et au ski. Donc on a beaucoup de personnes qui ont un double emploi, qui l'été travaillent en tant qu'artisan, en tant qu'agriculteur, en tant que commerçant ou autre, et puis qui l'hiver travaillent pour le ski en tant que moniteur, en tant que coureur de ski par exemple, voilà. Et donc effectivement, il faut que on sache faire évoluer les pratiques et les activités vers moins de ski et sur d'autres activités. Et ça a déjà commencé. Je prends un exemple, le loueur de ski, par exemple. En fait, il est devenu loueur de vélo. Donc, le virage est en route. Ça se fera pas tout d'un coup. C'est compliqué. Il faut que les métiers évoluent, que les compétences s'acquièrent. Donc, oui, on est dépendant du ski. Mais on essaie de faire en sorte d'en être de moins en moins dépendant pour que quand vraiment le ski sera plus possible dans les 20-30 ans, il y a encore beaucoup d'années devant nous quand même, hein. Je suis optimiste en la matière, il faut qu'on adapte notre station. Certainement qu'il va falloir revoir le point de départ de la station pour aller le chercher un peu plus haut, parce que la neige elle sera plutôt à 1300-1400 mètres. Donc il y a encore de la place pour le ski, avec une station peut-être revue, restructurée, un peu plus petite, mais qui répond à notre demande aussi de ski plus familial et débutant, voilà, d'apprentissage.
Saint-Pierre de Chartreuse a pour l'instant sauvé sa station, mais pour combien de temps encore? D'autres ont disparu du paysage. En Haute-Savoie, Drouzin-le-Mont, né au milieu des années 70, a accueilli ses derniers skieurs en 2012 à cause de pertes financières. Plus au sud, dans les Hautes-Alpes, la station de Céuse a fermé après presque un siècle d'existence. Pour éviter ce funeste destin, certaines stations s'accrochent avec des modes de gestion plutôt originaux. Direction le lac d'Annecy et la commune de Talloire-Montmain sur sa rive est. Site très prisé l'été, il l'est aussi l'hiver grâce à sa petite station de ski gérée par des bénévoles. 128 km. Allez, c'est parti.
toujours ce spectacle de cartes postales tout blanc. Bonjour monsieur.
Bonjour à vous et bienvenue dans notre petite notre petit stade de neige de Montmain. Je m'appelle Marcel Maniglier, j'habite à Montmain depuis toujours. Mais bon, j'ai pas toujours travaillé ici, hein. J'avais une autre activité. Et à la station, je suis responsable des pistes et moniteur de ski. Alors, l'histoire de la station, ben, celle-ci, elle est récente puisqu'elle a 30 ans. Mais le ski à Montmain date depuis les années 30. Puisque un ancien Montminois qui habitait à Paris, un jour a décidé de revenir construire un hôtel de luxe ici à Montmain au village. Et il a fallu donc pour les clients faire une station qui, à l'époque, n'avait pas de remontée mécanique. Les gens venaient, ils faisaient du ski, montaient à pied, redescendaient en ski, mais il n'y avait pas de remontée mécanique. Jusqu'à la fin de la guerre. Et puis après, le ski s'est développé. On a eu beaucoup de classes de neige, une demande forte de remontées mécaniques. Donc au départ, c'est des privés qui ont lancé un petit peu un tel ski là-bas, un tel ski là. On le dit, cette année on le met là, une année on le met là-bas. Puis ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc on a créé une société avec la commune qui regroupe donc des privés et du public. Alors avant c'était avec salariés et dans les années 2000, on a eu un nouveau chef d'exploitation qui dit, ben écoutez, les comptes sont mauvais, il faut faire un virage. Soit on peut fermer les remontées, soit on travaille avec des bénévoles.
Combien de personnes, du coup, s'activent autour de cette station?
Au moins 35. Parce qu'il faut 5 personnes pour faire marcher. Une personne à chaque téléski, donc ça fait 2. Une personne à la caisse, 3. Et 2 personnes à la location.
Vous disiez on manque parfois de bénévoles. Est-ce que vous manquez aussi parfois de neige?
Ah bah oui, ça malheureusement on manque de neige, ça. Surtout en fin de saison.
On est à combien d'altitude là?
On est à 1150. Il y a de la neige, on fonctionne. Il n'y a pas de neige, on ne fonctionne pas. Il y a des années bonnes et une autre non. C'est comme la chanson de Jean Ferrat, vous savez. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer qu'en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Et les années bonnes sont de plus en plus rares ou pas?
Non, ça s'équilibre. Par contre, on a des gros rebonds de température, ça c'est sûr. Il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Et là, on est en versant sud. On gagne vite des degrés, elles font vite. Ce qui fait qu'en fin de saison, on a du mal à tourner après le 15 mars. C'est dur. Alors là, voilà notre petit chalet qui est encore là pour l'instant, mais qui devrait, j'espère, disparaître pour avoir un nouveau. On y va?
Allez, on rentre.
C'est le lieu, ça. On a tout. La billetterie qui se trouve là à gauche. Et là, le matériel. Petit ski, moyen ski, grand ski, chaussures. Tout à l'heure, vous voyez qu'on est petit. Là, c'est donc l'armoire électrique pour la mise en route de l'appareil. Donc, on met le jus.
Et voici Benoît Richard, c'est le perchman bénévole de cette station de Montmain. C'est un peu le conducteur de téléski, si on veut traduire en français.
Mais par contre, honnêtement, je ne me rappelle plus. Tu fais réarmement et après mise en marche,
ouais, c'est ça,
ça.
Ouais. Attends.
Il est bien relevé.
Il est vert ou pas?
En fait, il n'y a rien d'allumé.
Ah, attends, alors, lève la poignée est baissée. Voilà.
Ah, voilà. Vas-y. Donc là, on met le jus, déjà, voilà, ça marchera mieux, probablement.
Tout allait mieux, là.
Pour démarrer tout le moteur. Donc, on réarme. Ouais. Voilà, et maintenant, on met en marche. Et on entend là-bas. On voit que ça tourne, la roue s'est mise à tourner. Tout est bon. Le petit téléski est prêt à fonctionner.
On a le téléski, si vous voulez.
le rôle du conducteur du téléski, c'est de se placer en fait au niveau de la commande déportée, c'est-à-dire juste à côté de l'embarquement des skieurs. Quand ça veut bien démarrer, c'est gelé. C'est du vieux matériel, hein. Il faut le traiter avec tout le respect qu'on doit. Ah oui. Je suis à Montmain depuis 7 ans et je suis bénévole à la station également depuis 7 ans. Parce qu'en fait, dès le premier hiver, on était installé, je me suis proposé parce que je trouvais que c'était d'une part une activité sympa et que je connaissais pas du tout. Et d'autre part, forcément, pour un nouvel arrivant dans le village, un bon moyen de connaître du monde et de s'insérer un peu aussi dans le village.
Et vous vous dites, ça vaut le coup de maintenir le ski à tout prix ici parce que ça a un rôle presque social, quoi.
À tout prix, je dirais pas à tout prix, mais ça vaut le coup de le maintenir tant qu'on a quand même des installations qui sont présentes, qui sont amorties. Donc quelque part, on a peu de coûts à part des frais de maintenance parce que c'est tenu par des bénévoles. Si les bénévoles finissaient par baisser les bras, la station n'aurait plus aucun sens parce qu'il est impossible de payer des gens à s'en occuper, quoi. On est trop bas en altitude pour avoir un niveau d'enneigement correct. Donc, moi, je dis pas qu'il faut la maintenir à tout prix, mais je dis qu'il faut la maintenir tant que les conditions le permettent. Socialement, c'est un intérêt pour le village. Et puis, il y a quand même pas mal de familles du bassin annécien qui sont venus apprendre à skier tout petit ou qui viennent apprendre à skier à leurs enfants tout petits ici. Ah, parce qu'il y en a une autre qui gêne. Ah, vous voyez, ça c'est un truc aussi, voilà, ça c'est un des rôles aussi, c'est de débloquer la situation.
Messieurs Luce, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planté du bâton.
Interception.
Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud.
Sur France Inter.
8% des Français seulement pratiquent régulièrement le ski. Et la France compte encore environ 350 stations, mais en moyenne, 3 d'entre elles ferment chaque année. Selon l'OCDE, d'ici la fin du siècle, 2/3 des domaines skiables seulement auront un enneigement naturel. À l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine de Grenoble, on surveille attentivement cette évolution.
4e étage, avec une très belle vue sur les montagnes, dont la cime est cachée par les nuages aujourd'hui.
C'est dans la capitale dauphinoise qu'on retrouve Jérôme Val.
Je m'appelle Philippe Bourdeau, je suis enseignant-chercheur à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine de l'Université Grenoble-Alpes et membre du laboratoire PACT. Les stations les plus sensibles aux variations d'enneigement sont évidemment les stations qui sont situées le plus bas en altitude, en dessous de 2000 mètres d'altitude. On a coutume de considérer que c'est un petit peu la zone clé en dessous de laquelle les incertitudes d'enneigement deviennent de plus en plus fréquentes.
Ça veut dire une majorité de stations. Si on regarde un peu les statistiques, je lis que 85% des stations en Haute-Savoie sont situées à moins de 1700 mètres, c'est 72% en Isère. Ça veut dire que c'est une très grande majorité de stations qui sont aujourd'hui un peu sur le fil du rasoir.
Alors, il s'agit d'une majorité de stations, mais il faudrait vérifier en termes de nombre de lits et donc de capacité d'accueil. Il y a certainement plus de stations à basse altitude, mais ce sont les stations les plus hautes qui ont les plus grandes capacités d'accueil.
Sur ces sites, le ski, c'est de l'emploi, c'est une économie locale, c'est une dépendance.
Alors le ski, c'est de l'emploi, c'est de l'économie, c'est aussi une culture. Alors il y aurait tout un récit à faire d'une épopée des sports d'hiver qui ont été pour la montagne une voie de développement, une voie de sortie de crise par rapport à la déprise agricole, par rapport à la désindustrialisation et aux exodes de population. Donc les sports d'hiver ont été un moyen de sauver, entre guillemets, la montagne du vide pendant plusieurs décennies. Un mode de développement qui est devenu dominant, parce que c'est une des caractéristiques du tourisme, c'est-à-dire qu'il est un facteur de développement très puissant. Et puis à un moment donné, il a tendance à faire un peu le vide autour de lui. Et à ce moment-là, il y a une forme de dépendance qui s'installe, dont on commence à prendre conscience au regard des incertitudes qui vont être climatiques, bien sûr, mais qui vont être sanitaires également en cette année 2021. On a encore un système économique qui est positionné pour collecter de l'argent sur des périodes assez courtes, qui sont celles des vacances scolaires de février essentiellement. Donc, les opérateurs et les acteurs des sports d'hiver, confrontés à ces incertitudes climatiques, ils ont quand même l'impression qu'on leur demande de lâcher la proie pour l'ombre, parce qu'il n'y a pas de modèle économique de substitution face à tout ce que le ski représente et à ce qu'il a représenté, aussi bien dans la culture que dans l'économie. Donc on est un peu au bord du vide, avec une très grande incertitude, parce que toutes les activités qu'on peut imaginer pour diversifier l'économie touristique au-delà du ski, jusque-là, elles n'ont pas montré une capacité à constituer un modèle économique pertinent, en tout cas à la hauteur du ski. Donc on serait dans une logique de décroissance si on acceptait, sans discussion, de fermer la porte des stations de manière anticipée. Et je crois que moins on aura de la neige et plus elle nous fascinera. Et c'est là tout le paradoxe, puisque les stations, il faut qu'elles soient en situation de pouvoir valoriser la neige si elle est là et de s'en passer si elle est absente. Et ça renvoie à une forme de flexibilité et d'adaptabilité que la vision industrielle du tourisme qui a prévalu dans les sports d'hiver permet difficilement d'atteindre.
Pour contrer les aléas climatiques, les stations misent sur la neige de culture. L'objectif est de couvrir plus de la moitié du domaine français dans les prochaines années, à l'image de ce qui se fait en Autriche ou en Italie. Il existe une autre technique, le recyclage de la neige, technique appelée « snow farming », et c'est ce qui se pratique ici, au Grand Born. Et on va aller sur l'une de ces carrières où l'on stocke de la neige pour pouvoir l'utiliser l'hiver.
Thierry Nouguet, je suis directeur d'exploitation du domaine skiable du Grand Bornand.
Nous sommes devant une carrière de neige, c'est ça? Comment on peut définir ce gros tas de neige que nous avons devant nous?
C'est ça, c'est une carrière de neige, donc une grosse fosse qui a été créée l'été, il y a 3 ans maintenant, où on va venir stocker de la neige tout le long de l'hiver en fonction des températures et de la production de neige de culture. C'est un volume d'environ 26-27 000 mètres cubes que l'on stocke l'hiver et qu'on va venir recouvrir de à peu près 1 mètre d'épaisseur de sciure en fin d'hiver, de façon à la protéger de tous les aléas climatiques de l'été. On va former un gros dôme pour faciliter l'écoulement d'eau l'été et essayer d'impacter le moins possible ce volume de neige de stockage. Donc là, sous cette épaisseur de neige naturelle qui est tombée dernièrement, nous avons le stockage de sciure qui nous sert en fin de saison pour recouvrir le tas de neige.
Ouais, ça peut être profond, hein.
Ah ouais, ben là, il y a plus d'un mètre de neige. Ouais, là, on est loin. Ouais.
Et l'été, ça ne fond pas?
Forcément, il y a de la perte. On estime entre 20 et 30% de diminution de ce volume. Par exemple, là, cette année, nous avions stocké 26 000 m3 de neige. On en a récupéré 21 000. Mais on ne peut pas parler de fonte. La neige va se densifier. L'air qui est dans la neige va s'enlever et ça va devenir comme un glacier, quoi, un gros bloc de neige dure.
Et l'idée, c'est d'utiliser ce stock de neige quand les conditions d'enneigement sont insuffisantes ici, sur cette piste par exemple.
Tout à fait. Alors à l'origine, ce stockage de neige a été créé pour le biathlon, pour la Coupe du Monde, de façon à avoir cette ressource en neige si on n'avait pas la ressource naturelle ou la production de neige. Mais par exemple cette année, comme on n'avait pas la Coupe du Monde, nous avons utilisé ce stockage de neige pour enneiger une boucle d'une piste verte, de façon à assurer au moins une descente sur un télésiège, et aussi pour enneiger toute la zone de l'espace nordique en bas, pour assurer des boucles de ski de fond.
Combien de sites comme celui-là vous avez sur le Grand Bornand?
Alors sur le Grand Bornand, on a ce site-là sur le Chinaillon, donc qui est le plus gros, qui représente 26 000 m3, et ensuite au village nous avons 2 zones de stockage, une proche de la zone du biathlon qui représente à peu près 3 à 4 000 mètres cubes de neige et une autre au fond de la vallée du Boucher qui est un peu plus grosse, qui va représenter 6 à 7 000 mètres cubes de neige.
Nous sommes rentrés un petit peu au chaud dans une usine à neige.
Alors moi c'est Fabien, je suis niveau culteur. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, donc niveau culteur, c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est la neige de culture et des enneigeurs dans la station du Grand Bornand.
Alors vous avez face à vous une carte sur l'ordinateur, sur l'écran, j'imagine, de tout ce qu'on appelle communément les canons à neige, c'est ça?
Oui, voilà, tout à fait. Donc on appelle ça la supervision. Donc au Grand Bornand, on a environ 280 enneigeurs.
Est-ce qu'on peut donner un pourcentage, en tout cas, du domaine ici au Grand Bornand qui est couvert justement par cette neige de culture? Compliqué à
48% des pistes de mai qui sont couvertes par la neige de culture.
Donc quasiment la moitié.
Ouais.
Ce qui est
tous les axes principaux. Ce qui en France est quand même pas mal. Je pense qu'on doit être dans le top 3.
Mais ça veut dire quoi ce chiffre? Ça veut dire qu'il n'y a pas de neige suffisamment l'hiver pour s'en passer?
Non, c'est pour sécuriser la saison. Le début de saison et la fin de saison. Qui s'est raccourci dû quand même au réchauffement et que si on n'avait pas ça, on pourrait pas démarrer début décembre et finir fin avril, quoi. C'est une sécurité. Donc Grand Bornand, voilà, la première vraiment grosse installation était faite en 95. Après les débuts des années 90 où il y avait les saisons sans neige, voilà, tout de suite commencer à investir là-dedans et après voilà, on utilise la neige de culture de manière raisonnée. On ne fait pas de surproduction. Tout est quand même calculé pour pas gaspiller.
Comment ça marche?
Donc la neige de culture, pour effacer tous les idées reçus, c'est vraiment que de l'eau et de l'air comprimé. On stocke de l'eau dans des lacs qu'on appelle retenues collinaires. Donc au Grand Bornand, on a 350 000 m3 de stockés dans deux retenues collinaires. Cette eau après est transformée en neige. Donc quand la neige fond, elle retourne dans le milieu naturel. On remplit nos retenues collinaires avec la fonte des neiges.
Il faut donc des températures froides pour pouvoir produire de la neige.
Oui, voilà, ouais. Enfin, à partir de moins 2 degrés, on arrive à faire de la neige. Après, pour avoir un bon rendement, il nous faut moins 5, moins 6 degrés, oui.
Et donc, si les températures à l'avenir deviennent de plus en plus chaudes, au-delà en tout cas de 0 degré, cette neige de culture, impossible de la fabriquer et donc impossible de couvrir les besoins.
C'est pas la solution miracle, mais pour l'instant, elle nous aide bien. Et après, à voir avec les années, on ne sait pas où on va, quoi. Donc, dans la salle des machines, on a des pompes, parce que pour faire de la neige de culture, bien sûr, il faut qu'on ait de l'eau sous pression qui arrive à l'enneigeur et avec la détente dans l'air qui va nous créer la neige, quoi.
C'est un lieu secret ou pas
On va?
Ouais.
Oh, pas du tout.
Non.
Il n'y a rien de secret chez nous.
Donc, on peut y aller, c'est ça. Il n'y a pas de souci.
Ici, on a les trois pompes où chaque pompe peut débiter 300 m3 chacune. Donc au Grand Bornand, voilà, on a deux usines à neige. Donc on a celle-là et celle qui est plus haut. Et au total, le débit maximum de l'installation est de 3000 m3 d'eau qui peut passer dans les tuyaux, quoi. Donc voilà, après, pour faire un ratio, ouais, c'est, on sait qu'en moyenne, une famille de 4 personnes en France consomme 120 m3 d'eau par an. Nous, là, on arrive à transformer 3000 m3 d'eau par heure en conditions optimales.
Interception sur France Inter.
La neige de culture, c'est donc pour le moment la solution pour sécuriser les saisons de ski. Mais en montagne, de plus en plus d'associations de défense de l'environnement dénoncent son impact sur la nature. Elles fustigent les créations de retenues d'eau et les implantations d'usines à neige, un débat presque aussi ancien que la plus grande station du pays.
En attendant que l'avenir consacre ou non la neige de culture, les autres stations font confiance en la nature. Bien mieux, La Plagne a axé sa promotion sur la certitude d'avoir de la neige toute la saison. C'est ainsi qu'est né dans la station de Haute-Tarentaise le slogan « Si c'est blanc, vous payez, si c'est vert, on vous rembourse ».
La Plagne, c'est 50 000 lits. Son domaine où on peut skier de 1200 à 3200 mètres d'altitude.
Bonjour.
Bonjour.
Jérôme Val rencontre Claude Schneider. Il est nivologue ici depuis 35 ans.
Alors le nivologue est la personne qui étudie le manteau neigeux pour essayer de faire de la prévision du risque d'avalanche.
Alors là, nous sommes sur le toit d'un bâtiment où vous avez installé votre station météo. Hein.
Oui, alors là, c'est la station météo qui nous sert à faire les relevés de température, d'humidité, les cumuls de neige. Les hauteurs de neige aussi à la station sont faites juste en contrebas, hein, pas sur le toit, bien sûr. Avec ces mesures-là, on pourra faire tout un tas de statistiques.
Alors, par exemple, là, vous avez un relevé ?
Eh ben oui, on peut ouvrir. Hein. Donc, voilà, donc l'abri est là. Donc, il est orienté vers le nord. Et donc, actuellement, là, il fait moins 9,2 degrés. Moins 9 degrés aujourd'hui à midi à La Plagne.
Journée fraîche, plutôt.
Ah oui, journée fraîche. Elle a commencé très froidement, même plutôt froide que fraîche. Puisque ce matin, j'ai relevé moins 15 degrés à 8h moins le quart.
Et donc là, vous avez aussi un instrument pour mesurer l'épaisseur du manteau neigeux.
Oui, on a différentes choses. Ça, c'est plutôt la partie neige également, la fameuse planche à neige sur laquelle va venir se déposer la couche de neige. Et simplement, avec notre maître de menuisier, on va mesurer la hauteur de neige. Et tous les matins, on va comme ça faire les relevés lorsqu'il neige. Et l'addition de toutes ces chutes de neige nous donnera un cumul saisonnier.
Sur ces 35 dernières années, qu'est-ce que vous pouvez observer en termes de la redondance de la neige? Est-ce qu'il y a moins de neige? Est-ce qu'elle est moins importante? Est-ce que les chutes sont moins importantes?
Il se trouve que nous sommes effectivement à 2000 mètres, que pour l'instant, il n'y a pas moins de neige qu'au début. Les chutes de neige saisonnières sont très variables. Et globalement, sur les 35 ans, lorsqu'on tire une courbe lissée, elle est même légèrement croissante. Puisque c'est en 2017-2018 que j'ai eu le cumul le plus fort de ces 35 années, avec 9,22 m de neige ici. Au niveau quantité de neige, on peut dire que pour l'instant, on ne remarque pas de changement.
Il y a en revanche un constat que l'on peut faire sur ces dernières décennies, c'est que les températures ont tendance à augmenter, notamment sur, on va dire, la pré-saison et la fin de la saison à partir du mois de mars-avril.
Oui, du côté des températures, on a maintenant un recul d'une cinquantaine d'années ici à la Plagne. On a des températures moyennes mensuelles en avril qui deviennent positives et qui frisent les 5 degrés. Donc c'est énorme pour le manteau neigeux. Et on a un petit phénomène identique qui commence à poindre le bout de son nez pour décembre, où dans la dernière décennie, les températures moyennes du mois de décembre étaient négatives, sauf deux fois où les températures ont commencé à devenir positives. À 1200 mètres, on commence à avoir une tendance au raccourcissement des saisons, notamment par la fin de saison, puisque c'est là que les températures sont les plus douces, et c'est là où le manteau neigeux est tributaire de ces températures douces, quoi.
Et vous pensez, vous, que dans un avenir plus ou moins proche, ce phénomène va rattraper aussi les stations qui sont plus en altitude ?
Alors j'aimerais bien vous dire non, hein, bien évidemment, hein, puisque c'est le cœur même de mon métier, la neige. Mais au vu des courbes de température, tout doucettement, on y arrive également. Alors je pense qu'on a encore de belles années devant nous pour l'instant, hein, puisque les températures sont encore relativement froides et les cumuls de neige sont importants. Donc je pense que dans les 10-15 ans à venir, on n'a pas de souci à se faire. Après, malheureusement, je pense que c'est inéluctable, la température continue à augmenter si on ne fait rien. C'est un ressenti là que j'exprime maintenant. En 87, j'ai l'impression qu'il ne pleuvait jamais à 2000 mètres. Et ces dernières années, ça arrive de plus en plus fréquemment qu'on ait des petites périodes de pluie à 2000 mètres, que la pluie s'élève jusque vers 2200, 2300 mètres. Et le ressenti me fait dire que c'est plus fréquent ces dernières années qu'avant.
En hiver.
En hiver, oui, je parle bien de la période hivernale pendant la saison de ski.
Bonjour. Allez-y, entrez.
Jean-Luc Bock, maire de la Plaine Torrentaise, président de France Montagne et président de l'Association nationale des maires de stations de montagne.
Est-ce que cette question du réchauffement climatique, de la configuration qui sera différente dans 10, 20, 30 ans, est aujourd'hui complètement rentrée dans les mœurs des acteurs locaux que vous êtes et que vous représentez ?
À Alors, le complètement, pas encore, non. On est en train de travailler cela, mais ça fait plusieurs années maintenant qu'on a fait émerger l'idée et la volonté de changer le modèle économique. On est en train de mettre en place beaucoup de choses qui vont permettre d'allonger les ailes de saison, qui vont permettre d'agrandir fortement la commercialisation et l'activité estivale. Oui, toute la montagne française est en train de changer et de muter. Et tout le monde a compris, ne serait-ce que d'abord les constructeurs, les hébergeurs, s'ils voulaient amortir plus facilement leurs biens, leur construction, il fallait le faire sur une période d'activité beaucoup plus longue. Donc tout le monde est en phase de modification et ça commence vraiment à être ancré, en tout cas, dans les volontés de tous les acteurs économiques.
Et dans quelle proportion, vous, ici à la Plaine Tarentaise, vous êtes dépendant du ski en termes financiers? Ça veut dire que le budget de la commune dépend entièrement d'une bonne saison de ski ou pas, en fonction de, justement, de l'enneigement?
Alors, pas exclusivement, mais on peut dire que 30% du budget de la collectivité de la Plaine Tarentaise dépend directement ou non de la fréquentation des stations. Donc oui, c'est énorme, c'est important, et c'est surtout toute la vie économique qui est basée là-dessus, que ce soit celle de la municipalité ou, comme on en parlait préalablement, les agriculteurs, ils peuvent vivre, ils peuvent développer leur exploitation ici en montagne, qui est beaucoup plus dure qu'ailleurs, parce que justement, il y a les vacanciers qui viennent et qui achètent leurs produits. Donc c'est vraiment un écosystème qui fonctionne à l'année, et la fréquentation hivernale estivale aujourd'hui, donc financièrement, permet de faire vivre le territoire et des centaines de milliers de personnes sur un territoire de montagne qui n'était pas forcément destiné à cela à l'origine, parce que vivre en montagne, c'est beaucoup plus dur qu'ailleurs.
Le tout ski, c'est fini, mais sans le ski, tout est fini, dit un célèbre adage de montagne que Jean-Luc Bock reprend à son compte. À la Plagne, on croit à l'avenir du ski, mais pourquoi encore investir des millions d'euros dans des installations chaque année si dans plusieurs décennies, la neige vient à se faire rare?
En fait, il faut intégrer cette donnée dès le début.
Nous posons la question à Alexandre Bouet. Il est le directeur général adjoint de la Société d'aménagement de la Plagne, l'entreprise qui exploite le domaine skiable.
Il faut essayer de se projeter, et c'est ce qu'on fait sur nos derniers projets d'aménagement, de se dire, voilà, on se projette dans 25 ans, où on en sera de nos glaciers, de notre enneigement de début de saison, de l'accès, pour essayer de faire des choses, des aménagements qui soient pertinents et qui soient toujours viables d'ici 20 ans, et qu'on ne se dise pas dans 10 ans, zut, on s'est trompé, il faut qu'on déplace cette remontée mécanique, il faut qu'on en fasse une autre. Donc en fait, quand on intègre ces données à long terme, on va de plus en plus vers des stratégies d'aménagement montée et descente entre les stations et des sites de plus haute altitude, et avec de la descente qui soit confortable pour les clients et avec du haut débit. C'est en ça l'adaptation, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'ascenseur en fait, ou plutôt que de dire nos clients doivent absolument rentrer ski au pied en station, demain il faut que ces clients-là puissent aller skier en altitude confortablement, au soleil, dans de bonnes conditions, et le soir pouvoir redescendre par des infrastructures qui le permettent et de manière assez rapide et confortable. La vocation des stations, c'est aussi de mettre en avant un développement estival et un développement, j'irais même in fine, sur 4 saisons. Une remontée mécanique, ça coûte cher, et si on peut la faire l'utiliser l'hiver et l'été, c'est très bien. Et donc quand on aménage maintenant, on pense aussi à l'été. Je dirais pas autant que l'hiver, mais pas très loin.
Aujourd'hui sur ce site, on voit quand même les versants sont occupés. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des zones aménagées où on s'interdit aujourd'hui d'aller justement dans ce développement de l'espace de ski?
Sur l'aspect extension de domaine skiable, là sur notre prochain projet d'envergure, on est même plutôt dans une démarche inverse, donc qui est rare aujourd'hui dans le milieu des remontées mécaniques, c'est-à-dire qu'on va quitter une petite zone, on va rendre à la nature une petite zone du domaine skiable, qui est la zone du glacier de la Chiope. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a 40 ans, l'aménagement de ce site était pertinent. Il y avait un glacier assez conséquent qui permettait la pratique du ski d'été. Donc il y avait une vraie activité d'été associée à l'aménagement de ce glacier. 40 ans plus tard, la situation a beaucoup évolué. Le glacier, malheureusement, est réduit à sa plus simple expression. Donc l'intérêt ski de cette zone a diminué. Et donc on a préféré, dans le réaménagement de cette zone, ne pas insister coûte que coûte à occuper cette zone et à skier sur cette zone, mais plutôt à la rendre à la nature. Si aujourd'hui l'histoire a évolué, il faut qu'on évolue aussi dans notre approche d'aménagement. On ne pourra plus faire comme avant. La période de l'aménagement massif de la montagne, cette période-là, elle est terminée.
Ainsi, le perfectionnement de la technique des câbles a permis la construction de plus de 600 installations dont le modernisme a fait véritablement de la montagne française la terre d'élection du ski et du tourisme d'hiver.
Plus personne ne conteste le réchauffement climatique et son impact sur la montagne, même si cette réalité est parfois difficile à intégrer pour ceux qui vivent et dépendent de cette économie du ski. Les associations de défense de l'environnement dénoncent bien souvent une vision à trop court terme. C'est le cas de l'ONG Mountain Wilderness. Nous rencontrons l'un de ses membres, Vincent Nérinck, au pied de la prestigieuse Grande Chartreuse en Isère.
Alors, je suis chargé de mission à Mountain Wilderness. C'est une association de protection de la montagne, au niveau national, qui est d'ailleurs agréée pour la protection de l'environnement sur l'ensemble du territoire français et reconnue d'utilité publique. Et c'est une structure qui a été fondée il y a plus de 30 ans maintenant, au niveau international, par les plus grands alpinistes de l'époque, qui ont pu prendre conscience de l'impact de l'homme sur la montagne en général, mais surtout les dérives d'un point de vue touristique, d'un point de vue même philosophie générale des pratiques, et qui ont décidé de se fédérer dans une structure, une ONG internationale, pour traiter de tous ces enjeux qui vont, comme je le disais, des questions d'aménagement du territoire, de protection de l'espace, d'éthique des pratiques, de questions de loisirs motorisés, enfin de tout ce qui touche à la montagne. Et on travaille sur tous ces enjeux.
Pendant cette mutation par rapport à, on l'a entendu depuis le début de ce reportage, aux questions du réchauffement climatique, les grands aménagements pour favoriser le ski continuent, ça ne s'arrête pas d'un coup.
Ça ne s'arrête pas effectivement, on en a des centaines de milliers d'euros qui sont mis sur les pistes et dans l'immobilier, j'en parle même pas, tous les ans. Sur l'optique de, on construit des remontées mécaniques financées par des immeubles et puis de toute façon c'est le ski qui fait vivre la station. Le ski alpin génère de l'activité et de l'emploi, ça on ne le nie pas et c'est pas un problème. Le problème c'est qu'on continue à se dire le monde est infini et on aménage et on générera tout le temps bénéfice, c'est faux. On est en train de se piquer à coup d'aménagement les clients de la station voisine, parfois même dans la même communauté de communes. Et avoir ce schéma de construction de l'avenir qui ne prévoit que de se focaliser sur le ski alpin, mais c'est presque une douleur, j'ai envie de dire. Et oui, il y a des sites, il faut en prendre conscience, qui sont de toute façon condamnés. Et il y a les autres où il y a encore de la neige. Mais de la neige jusqu'à quand et sous quelle forme? Parce que vous avez tous vu ces photos, parfois même en plein mois de janvier, d'une piste de 2,50 m de large au milieu de l'herbe brûlée, parce qu'il n'y a pas eu de neige, mais on est content, on a pu faire la production de neige artificielle. Enfin non, de neige de culture, excusez-moi, enfin bon voilà quoi, faire tourner les canons. Il y a bien un moment où on va se dire, hé, attendez, c'est pas ce qu'on m'a vendu.
Justement, c'est l'une des alternatives à cet enneigement très hasardeux, très incertain, c'est canon à neige, hein, pour employer une expression que tout le monde connaît. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un peu plus d'un tiers du domaine skiable français qui est alimenté par cette neige artificielle. Les responsables des stations aimeraient faire grimper encore un peu plus ce taux pour couvrir encore plus le domaine skiable. Quel est votre regard sur cette pratique ? Notamment d'un point de vue environnemental, parce que ce sont des techniques qui sont très gourmandes en eau et en énergie.
En énergie et en paysage, ce qu'on ne dit jamais. Avec tous les travaux que nécessite l'exploitation d'un domaine skiable maintenant, y compris les retenues collinaires, les terrassements des pistes le plus lisse possible pour pouvoir passer la dameuse avec le moins d'épaisseur de neige possible, vous privatisez, enfin vous consacrez cet espace à un seul usage qui est celui du ski alpin. Vous ne pouvez plus rien en faire d'autre tellement l'ampleur des travaux est importante. Du coup, derrière, on reste dans ce cercle vicieux, on sait faire que ça, on sait aménager, on a mis des centaines, des millions d'euros à ne faire que ça. Et donc au final, on est condamné à ce que ça marche, trop gros pour tomber, comme diraient les Américains. Et par rapport aux enjeux environnementaux, jusqu'où on aura de l'eau. Et on a vu des tas d'endroits qui ont dû, à un moment donné, que ce soit dans les Vosges, mais aussi en Haute-Savoie, choisir entre faire de la neige ou boire. Je schématise à peine. On en est parfois là quand même. Bon, on n'a jamais été opposé au canon à neige. Dans la fin des années 90, on s'était mis à réfléchir à l'arrivée de ce nouvel outil. L'idée, c'était de dire ça peut être super intéressant pour limiter la fuite vers le haut des stations à la recherche de la neige. Par contre, on ne va pas pouvoir le faire n'importe comment, il va falloir réfléchir aux modalités d'implantation, de consommation, de prélèvement de l'eau, etc. Donc on avait commencé à rédiger un vadémécum de l'usage raisonnable, raisonné de l'enneigement artificiel. On n'a même pas eu le temps de finir d'écrire qu'on apprenait qu'on mettait du canon à neige à 3000 sur glacier en réserve naturelle. Donc il y a un moment, c'est devenu l'outil à la mode pendant toute une période. Il fallait l'avoir. On a vendu la garantie neige, vous aurez la neige, quel que soit son état, quelle que soit la situation, etc. Et c'est là qu'est le problème. Globalement, comment on fait pour attirer des gens dans une montagne dans laquelle, bon an, mal an, vous pourrez parfois faire du ski et parfois pas. Imaginez qu'on puisse skier avec 50, 60, 70% de domaines skiables enneigés artificiellement. Non, quoi. Non, pour des raisons de coût environnemental, de coût économique, de même plaisir qu'on n'y retrouvera pas, de risque, parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est aussi un des éléments, etc., etc. Donc non, vivons la montagne dans toute l'acception du terme et pas seulement montagne égale ski alpin.
Ça chauffe pour les stations de ski, c'était un reportage de Jérôme Val avec une prise de son de François Rivalan, réécoutable sur franceinter.fr. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier, mixage Sébastien Royer.